Je vous souhaite la bienvenue à ce tout premier épisode de la série de balados Santé sans rendez-vous de la Faculté de médecine de l'Université Laval. Mon nom est Joannie Fortin et c'est avec grand plaisir que j'animerai ces discussions qui vont vous donner accès à des experts et des expertes sur des sujets qui vous intéressent et qui ont tous un dénominateur commun, la santé. Et on débute sans plus tarder. Bonne écoute!
On voit qu'il y a une tendance dans les dernières années à avoir des enfants, le premier enfant est de plus en plus tard dans l'âge. Moi, quand j'étais étudiant, médecin résident, l'âge moyen au premier accouchement est autour de 27 ans, je pense. Maintenant, je pense qu'il est rendu autour de 33-34
ans. OK, quand même. Ce balado est présenté par la Société de services financiers Fonds FMOQ, qui vous rappelle que vivre en santé, ça commence maintenant. Bon, je dois avouer que j'attendais ce rendez-vous avec impatience, puisqu'au moment d'enregistrer ce balado, je suis à 35 semaines de grossesse. C'est pour moi un sujet qui m'interpelle énormément, c'est-à-dire l'horloge biologique. Et je ne savais pas que l'horloge biologique, c'était un phénomène qui était scientifiquement explicable. J'avais l'impression que l'horloge biologique, c'était comme la crise de la quarantaine, qu'on le vivait, puis que bon, ça passait comme ça, mais que c'était plus un phénomène littéraire, plus que explicablement scientifique. Et pour nous en parler aujourd'hui, j'ai en ma compagnie le docteur Mathieu Leboeuf, qui est obstétricien, gynécologue, directeur du département d'obstétrique, gynécologie et reproduction de la Faculté de médecine de l'Université Laval et co-titulaire de la chaire de leadership en enseignement en santé des femmes. Docteur Leboeuf, bonjour et bienvenue dans cette balado.
Bonjour, merci pour la superbe introduction.
Bien, ça fait très plaisir et justement, je ne savais pas que l'horloge biologique, c'était un phénomène scientifique, c'est un phénomène médical.
En fait, c'est un phénomène qui est très complexe. Il y a du biologique, mais il y a beaucoup de social là-dedans aussi. Mais il faut tout d'abord s'entendre qu'est-ce qu'on veut dire par horloge biologique aussi là, en dessous de ça. Et moi, ce que j'entends, puis ce que je vois et ce qu'on voit dans la culture populaire, ça date un peu le film, mais le film Horloge biologique, justement, ouais. C'est beaucoup sur la pression sociale d'avoir des enfants, sociale, personnelle, familiale, pour dire as-tu le temps? Moi, j'ai des patientes, j'ai des connaissances qui se faisaient dire régulièrement par leur mère, t'es-tu enceinte, là? T'as-tu un bébé, là? Veux-tu essayer? Je vois des roulements d'yeux aussi en face de moi, là. Donc, il y a plein de facteurs là-dedans aussi. Ceci dit, il y a une certaine connotation biologique en dessous de ça. Il y a une date de fin à la reproduction humaine au niveau de la vie. L'exemple le plus fragant, on n'a jamais vu une femme de 80 ans enceinte. Donc, en quelque part, il y a une fin à la reproduction chez les femmes, qui est la ménopause, en fait. C'est ça l'horloge biologique. Et cette fin-là n'est pas abrupte, elle est progressive.
Mais dans l'horloge biologique, des fois, quand j'entends parler de... Là, c'est ça, j'ai 35 ans, je ne considère pas, moi, dans ma vie, avoir ressenti ça, moi, un appel de l'horloge biologique. T'sais, je le dis en blague, même pas de texto, même pas de message sur ma boîte vocale de vie, là, du genre « Hey, bonjour, ici la vie, faudrait que t'aies le goût d'avoir des enfants présentement. » T'sais, on a décidé ça avec mon conjoint, puis on a décidé de se lancer dans cette belle aventure-là qui est la maternité. Bon, mais c'est pas quelque chose que moi que je ressentais, alors qu'il y a des femmes autour de moi qui, depuis qu'elles sont adolescentes, elles ont viscéralement là hâte et elles ont besoin de devenir une mère. Au-delà de la pression sociale ou peut-être des gens aux alentours qui vont nous dire « Ouais, mais c'est la normalité d'avoir une famille et de fonder une famille », est-ce que l'horloge biologique se ressent corporellement parlant? Est-ce que c'est quelque chose qui est explicable, ça?
Très bonne question. Très difficile à prouver aussi. Hein? Ce qu'on voit, c'est vraiment plus une question sociétale aussi. Mm-hmm. On le voit dans... je pourrais donner un exemple dans les familles où les enfants de familles immigrées, où la première génération ont des enfants très, de façon très similaire à leurs parents immigrants. Assez tôt, rapide. Là, je tombe dans les stéréotypes, bien sûr, mais la deuxième génération qui sont nés ici, au contraire, ils ont un phénomène qui est beaucoup plus nord-américain. Ça, on peut y aller de ce côté-là. Mm-hmm. On va avoir des enfants qui sont beaucoup plus tard aussi. Donc, on voit que c'est une question complexe. Mm-hmm. Et le désir d'avoir des enfants, il y a des gens qui l'ont, il y a des gens qui ne l'ont pas du tout. On n'a jamais réussi à dire, oh, oui, on a une hormone. Là. Ça, on prend une prise de sang, là, puis elle, c'est sûr, là, elle en veut plein. Puis il y a une prise de sang qui dit, non, elle n'en veut pas. Et ça change d'idée aussi. Là. J'ai de temps en temps des demandes de consultation pour des ligatures tubaires, par exemple, pour devenir infertile de façon chirurgicale à 19-20 ans. La grande question qu'on se pose à cet âge-là, ces patientes-là, on leur dit, penses-tu changer d'idée? Est-ce que tu es certaine de ton coup parce que c'est irréversible ici? Mm-hmm. Et à 19 ans, il nous reste encore 15 ans facile de vie fertile et même plus là, aussi. Donc, une personne à 19 ans peut dire non, je veux absolument pas, mais à 32 ans, là, pensez à toutes ceux et celles qui sont passés 30 ans. À 19 ans, des fois, on se trouvait innocent aussi. Là. On a dit, oh mon Dieu, que si je pensais à l'époque? Mais il y en a qui sont très heureux puis qui ne veulent pas changer de choix non plus. Mais la vie change beaucoup. Il y a beaucoup de circonstances aussi en dessous de ça. Donc, oui, il y a une composante biologique en dessous du désir de grossesse, mais il y a une énorme composante personnelle, sociale, religieuse aussi. Là. Ça, on n'en a pas parlé, là, mais ça ne fait pas si longtemps que ça là, que la pression religieuse a diminué au Québec. Il en reste encore, mais quand le curé du village passait pour dire « Comment ça qu'elle n'est pas enceinte, elle? » Puis il me semble fait longtemps qu'elle a accouché puis qu'il faut faire des bébés, là, c'est une pression qui est différente. Et ça existe encore dans certains milieux. Moi, j'oserais dire malheureusement, c'est mon point de vue personnel, d'autres diraient « Ben, bon, on ne se lancera pas dans ce débat-là, mais ça fait partie de l'ensemble de l'image. »
Qu'est-ce qui a, puis c'est une question que j'aurais peut-être dû poser d'entrée de jeu, Dr Leboeuf, qu'est-ce qui vous a poussé à développer votre médecine vers la gynécologie, la santé reproductive des femmes?
C'est assez rapidement là, dans mes études, même avant là, quand même, j'ai quand même une bonne... conscientisation sur l'injustice entre les hommes et les femmes. Là. Tu sais, je mentirais pas. On le voit, c'était plus facile d'avoir une carrière pour un homme. Je parlais avec une collègue aujourd'hui, justement, des études où on a comparé des chirurgiens et des chirurgiennes. Elles ont la même formation. Ils travaillent le même nombre de jours, le même nombre d'heures, mais l'homme fait plus d'argent pareil. Alors que c'est pas des salaires, c'est des... Ils sont rémunérés à l'acte. Pourquoi? Je suis pas capable de répondre vite comme ça. C'est un constat. Ils n'étaient pas capables de l'expliquer aussi, mais c'était intéressant. Fait qu'on voit qu'il y a une certaine injustice. Puis quand j'étudiais en médecine, je me suis dit, ben si je vais en gynécologie, ça va être ma façon à moi de level the field, comme ils disent en anglais, de donner des chances à tout le monde aussi. Là. Tu sais, si je peux aider certaines femmes dans mes capacités, je ne suis pas capable de régler toutes les injustices à moi tout seul que je trouvais qu'il y avait, mais je suis capable de dire, ah ben là, certaines femmes, je vais pouvoir les aider et ça va faire mon petit bout de chemin.
Et est-ce que vous avez ressenti cette espèce de côté gratifiant-là pour vous dans la pratique, justement, de la gynécologie de l'obstétrique aussi?
Moi, c'est très gratifiant, là, le métier que je fais là. Moi, j'adore ça. Puis je pense que je rends un service à beaucoup de femmes et leurs conjoints aussi, ou leurs conjointes aussi. Donc, définitivement, moi, je trouve ça très, très gratifiant. Moi, j'ai une sur-spécialité en santé reproductive. La santé reproductive, c'est beaucoup, comme son nom le dit, la reproduction humaine. Je travaille beaucoup en contraception pour empêcher de devenir enceinte. Le corollaire de ça, le l'effet contraire, si on veut. Je travaille beaucoup en infertilité aussi. En d'autres termes, si une patiente vient me voir, une femme vient me voir, elle va me dire « je veux pas des bébés », je peux t'aider, pas de problème. Puis si elle, au contraire, elle vient me voir, elle va dire « je veux des bébés, ça marche pas », je peux t'aider aussi. Okay. C'est ça que je voulais dire, je suis capable d'aider dans mes petits. Je suis pas capable de régler les injustices, je suis pas capable d'empêcher toutes sortes d'abus. Bon, avec le mouvement MeToo, vous savez de quoi je parle. Mm-hmm. Par contre, ça, je suis capable de le faire. Et c'est très gratifiant. Là, je croise encore des patientes qui sont venues me voir pour des problèmes de fertilité puis qui me voient dans la rue. Puis, bon, quand je suis avec ma blonde et mes enfants, des fois, ça peut être malaisant parce qu'il y a quelqu'un qui crie, elle m'avait vu à un moment donné, elle m'a dit « Ah, docteur Leboeuf, regardez les beaux enfants que vous m'avez faits. » donc, ça peut porté à confusion. Ma blonde l'a très bien compris, mes enfants aussi. Mais pour vous dire, puis ça faisait quand même plusieurs années. Là, puis les gens s'en souviennent très bien. Puis on est très contents de ça. Là.
Je vais revenir sur l'infertilité tout à l'heure parce que j'ai l'impression qu'avec tout ce qu'on, ce qu'on entend, puisque moi, je vis là, en faisant beaucoup de lectures depuis que je suis enceinte, l'infertilité, les fausses couches et tout ça, c'est de plus en plus fréquent. Fait que c'est sûr que c'est un sujet sur lequel je voudrais revenir. Mais on va revenir à la base, comme on dit. La santé reproductive des femmes, ça marche par un cycle menstruel qui débute à la préadolescence, adolescence et tout ça. Petit tour d'horizon sur le cycle menstruel, comment ça marche?
Très bonne question. Question qu'on pourrait se poser aussi, c'est pourquoi qu'il y a des menstruations? Ces affaires-là. La façon la plus simple que moi je l'ai compris, que je l'ai intériorisé, c'est l'endomètre. L'endomètre, c'est quoi? C'est l'intérieur de l'utérus. C'est ça qui saigne à tous les mois quand une femme n'est pas enceinte. L'endomètre, quand on l'analyse, c'est beaucoup de sucre. À quoi sert l'endomètre? Il sert à nourrir l'embryon dans les premières semaines, premiers jours de vie. Donc, l'embryon qui a été formé par le spermatozoïde, l'ovule, on recule loin, là, s'installe dans l'endomètre. Il faut qu'il soit nourri, il faut qu'il ait du sucre, entre autres pour grossir. C'est l'endomètre qui va lui fournir. Une fois que le placenta se développe, s'installe, là, la circulation maternelle va nourrir le fœtus directement. L'endomètre, en fait, le sucre, ça va se détériorer avec le temps. C'est pour ça que la pinte de lait dans le frigo qu'on a est plus bonne après un certain bout de temps, puis on va l'acheter. C'est un peu ça qui se passe avec l'endomètre. Après un certain temps, s'il n'y a pas d'embryon qui l'a consommé, bien, le sucre qui a été accumulé là, il n'est plus utilisable. Il faut recycler, on recommence
le cycle. Donc, on le rejette par les menstruations.
Parce que la grossesse n'est pas établie. Puis pourquoi les femmes ont des menstruations plus ou moins régulière. La plupart du temps, c'est régulier par rapport aux autres animaux. Hein. Tous ceux qui ont des animaux, des chats, des chiens, nos chats, nos chiens ne sont pas menstrués. Femelles régulièrement, c'est quand elles sont en chaleur qu'elles le sont. Mais ça, c'est un mécanisme d'adaptation. Parce que au niveau des humains, bon, on avait des relations sexuelles régulières, mais on prend juste nos cousins les plus proches, les singes. Eux autres aussi ont des périodes de chaleur. Là, mais la guenon, j'aime ça dire guenon, c'est rare qu'on dise ça. la guenon, elle n'a pas des relations sexuelles, c'est pas en chaleur. Alors que chez les humains, on n'a pas ce concept-là aussi. On l'a vu un petit peu, je déparle un peu, là. Une femme qui ovule, on sait que sa libido est un peu augmentée, mais ce n'est pas aussi frappant que chez les autres animaux.
C'est parce qu'on a perdu cet instinct-là animal, où on n'est plus, je ne sais pas quoi, quel terme utiliser là, pour remplacer, puis on dirait, est-ce qu'on est moins instinctif? C'est pour ça qu'on est moins peut-être porté à avoir des relations sexuelles quand on est en chaleur, ou en tout cas, y a-t-il une corrélation à faire avec ça?
Bon, je ne dirais pas qu'on est moins instinctif, parce qu'il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui ont des relations sexuelles quand même sur le fly, là, aussi, on s'entend. Bonne question. Qu'est-ce qui fait que la différence, là, effectivement? Et c'est la même chose chez les mâles. On le voit, ceux qui ont des animaux aussi, ou les chevaux, même les tortues. Moi, j'ai une tortue à la maison, puis on voit là, que des fois, tu te dis, mon Dieu, ça a l'air d'y travailler. Mais on le sait que beaucoup d'animaux ont des phases très précises là, de reproduction, là, puis en dehors de tout ça, ça les intéresse absolument pas. Mais chez l'humain, au contraire, les grossesses sont réparties quand même assez équitablement dans une année, là. C'est pas comme les sœurs de Virginie où ce qu'ils vont accoucher toutes en même temps ouais. Là aussi. Là. Donc, pourquoi? Bonne question, je ne le sais pas. C'est probablement de l'évolution. C'est, mm-hmm. Nous, ça nous a bien servi, mais j'avoue que le sœur de Virginie, au printemps, c'est mieux d'avoir un bébé qu'à l'automne. Nous aussi, d'ailleurs, mais avec nos maisons chauffées, c'est moins problématique dehors dans la rue.
Quand on entame le processus de vouloir se reproduire, de fonder une famille, il y a toujours la question de, c'est quand le bon moment? Moi, mm-hmm. au début, je me disais, il faut le faire tout le temps. Parce que on prend pas de chance, on va mettre toutes les chances de notre côté. Mais c'est quoi le fameux calcul d'ovulation et tout ça là, qu'il faut faire? C'est un peu nébuleux souvent quand on s'est jamais posé la question et on s'est jamais arrêté à observer notre cycle menstruel.
Ce qu'il faut savoir, un cycle menstruel normal va varier entre 21 et 35 jours. Des fois, on a des patientes qui vont nous dire « Moi, je suis complètement irrégulier, ça varie entre 28 et 32 jours. » C'est normal, mm-hmm. c'est régulier ça pour dans le cycle menstruel. La menstruation, ou le cycle menstruel plutôt, est divisé en trois phases. Les menstruations, le cycle folliculaire, ou la phase folliculaire plutôt, et la phase lutéale. Lutéale pour l'utérus, jaune en latin. Pourquoi? Parce qu'il y a le corps jaune qui se développe après l'ovulation. Pourquoi le corps jaune? Parce que quand on regarde l'ovaire qui a ovulé, il est jaune. Après l'ovulation, tout simplement, ils étaient très originaux. Ils ont dit c'est jaune, c'est un corps jaune. Le corps jaune, c'est ce qui sécrète la progestérone. La progestérone dure systématiquement 14 jours. Le corps jaune a une survie de 14 jours. Ça, c'est assez constant. 12 à 16, mais c'est pas mal 14 tout le temps. Donc, pour répondre à la question, une femme qui a un cycle assez régulier va ovuler à peu près au jour 14. Pourquoi? Parce que 14 jours après, au jour 28, elle va être menstruée si elle n'est pas enceinte. Ça vient de là. Il y en a qui ovulent plus tôt. Mm-hmm. Il y en a qui ovulent plus tard, d'où le cycle de 21 à 35 jours. Et pour répondre de façon pratique à la question, il faut avoir des relations au jour 10, 12, 14, 16 et 18. Puis si ça nous tente, 20, pourquoi pas? Le jour 1 étant le premier jour des menstruations. Okay. Donc au jour 10, 10 jours après, relations sexuelles. Pourquoi deux jours? Pour deux raisons. Premièrement, ça prend 48 heures pour un homme de refaire son stock de spermatozoïdes pour pouvoir avoir une bonne quantité de spermatozoïdes. Et deuxièmement, les spermatozoïdes vont rester à peu près 2 à 3 jours à l'intérieur de l'utérus des trompes de Fallope, comme des loups qui attendent le mouton qui sort de la bergerie. Là. Quand l'ovule va passer, là, si une femme n'a pas eu de relation sexuelle au moment où elle ovule, c'est pas grave si elle l'a eu avant. Au contraire, les spermatozoïdes sont là puis ils vont sauter sur l'ovule en passant. Donc, jour 10, 12, 14, 16, 18, pour la majorité des gens, c'est ce qui va aider aux 48 heures. D'avoir des relations sexuelles plus fréquentes, mettons 2, 3, 4 fois par jour, on épuise, pauvre homme, on épuise le stock de spermatozoïdes, ce qui fait en sorte qu'à la fin de la semaine, il tire à blanc. Il n'y a pas beaucoup de spermatozoïdes présents, donc on diminue nos chances de façon contre-intuitive de ce côté-là.
J'aimerais qu'on aborde le sujet des fameuses hormones,
oui.
Que ce soit pendant l'adolescence, ça se développe. Les hormones, est-ce qu'on en a avant la puberté ou on n'en a pas du tout? En fait, là, c'est une question qui vient de me popper.
Très bonne question.
Ouais?
Pour répondre, en fait, oui, il y en a avant la puberté, mais c'est à la naissance qu'il y en a. C'est les hormones de la mère. On peut même voir des nouveau-nés féminins, des petites filles de quelques jours de vie qui ont des menstruations.
Ah oui?
Parce que, ça peut arriver avec un peu de sang menstruel dans les premiers jours suivant l'accouchement. C'est tout à fait normal. C'est les hormones de la mère qui ont stimulé l'endomètre, comme je disais tantôt.
Wow.
De la nouvelle-née qui donne une petite menstruation, puis après ça, ça ne revient plus jusqu'à sa puberté en tant que telle. Donc oui, il y en a, mais à la naissance, ça disparaît assez rapidement, ça vient du sang maternel. La mère et le fœtus partagent absolument tout.
Mm-hmm.
Y a un échange d'hormones entre les deux, définitivement. Et après ça, ben, il y a des sécrétions hormonales qui sont présentes chez les enfants, mais c'est des niveaux qui sont beaucoup plus bas. On le voit d'ailleurs, c'est la puberté où on va voir les hormones sexuelles amener une différenciation. Vous avez tous fait l'expérience, un jeune enfant, un jeune bébé, des fois on est gêné, on n'ose pas demander à la mère et au père si tu es un garçon ou une fille, là, on n'est pas capable, si on le voit pas tout nu, on n'est pas capable de faire la différence. Mais habituellement, rendu à 20 ans de vie, on est pas mal capable de faire la différence. Pas toujours, mais on peut être capable en général. Donc, la différenciation sexuelle est vraiment reliée aux hormones.
J'ai autour de moi, ben, personnellement, c'est ça, puis je veux m'en aller vers la réaction aux hormones qui sont tellement différentes. Bon, là, on parle de la santé reproductive des femmes. Je sais que les hommes aussi ont des hormones, mais chez les femmes, on réagit tellement toutes différemment aux hormones. Dans mon cas, je pense pas avoir eu vraiment là, des réactions très extrêmes et très intenses dans la vie, que ce soit dans ma puberté ou encore durant ma grossesse face aux hormones. Alors qu'il y a des filles autour de moi qui, quand elles étaient adolescentes, elles remettaient leur vie en question 2 semaines par mois, dépression postpartum et tout ça. Puis là, je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qui fait la différence entre toutes les femmes et leur réaction aux mêmes hormones, finalement? Est-ce que c'est une quantité d'hormones qui est plus grosse ou c'est le corps qui réagit différemment? Ou les deux, là, peut-être?
C'est une très bonne question. En fait, pour répondre à la première, est-ce que c'est une quantité d'hormones différente? Ça a été effectivement une hypothèse. Puis la réponse, malheureusement, c'est non, ça ne change rien. Il y a des, le niveau d'hormones varie beaucoup d'une personne à l'autre. Et malheureusement, il n'y a aucune association entre le niveau d'hormones et les symptômes que ces femmes-là vont ressentir. Donc, ce n'est pas une question de quantité d'hormones. Il y a des questions qui sont multifactorielles là-dedans. Je vous donne un exemple qui est bien connu en gynécologie. Les bouffées de chaleur de la ménopause. Les femmes japonaises ont très peu de bouffées de chaleur de ménopause. Lorsqu'elles émigrent au Japon, du Japon vers les États-Unis, parce qu'il y a une bonne communauté japonaise dans l'Ouest américain, dans l'Ouest canadien aussi, les filles des immigrantes japonaises ont des bouffées de chaleur. Mais génétiquement parlant, ce sont le père et la mère sont des Japonais. Donc, il y a une certaine construction sociale alimentaire peut-être, parce qu'on sait qu'il y a des phytoestrogènes. Les phytoestrogènes, c'est des estrogènes de plantes. Est-ce que ça joue un rôle? Le soya qui est très consommé au Japon, la sauce soya, pour penser pour tous ceux qui aiment les sushis, désolé pour la femme enceinte qui dit ça.
C'est de très bons sushis végés.
Tout à fait. Tout à fait. Mais est-ce que l'alimentation joue un rôle là-dedans? La réponse courte, on ne le sait pas pour l'instant. Mais au niveau de la réponse aux hormones, il y a une grande construction sociale. C'est sûr qu'il y a une variabilité biologique aussi. Il y a une tendance familiale aussi. En général, si la mère, ses sœurs ont beaucoup de symptômes, dans la famille, il y a tendance à avoir ces symptômes-là aussi. Est-ce qu'il y a une certaine construction familiale dans le sens que, ah ben ma mère a toujours réagi comme ça, fait que moi, j'ai appris en quelque sorte à faire ça? Peut-être. Peut-être pas non plus. C'est assez complexe, mais il n'y a pas de corrélation directe entre la dose des gens vont beaucoup réagir aux hormones et très peu à l'autre. Un autre exemple, c'est la grossesse. Une première grossesse, il y en a qui vont avoir énormément mal au cœur, une bonne partie de la grossesse. Veulent un deuxième enfant, mais appréhendent énormément le mal de cœur de la grossesse. Être enceinte, aucun mal de cœur. Aucun problème. Puis ils disent, ah ben ça doit être parce que j'ai eu une fille en premier, là j'ai un gars, c'est pour ça que j'ai pas mal au cœur, puis ils ont une fille. Bon, le sexe de l'enfant n'a rien à voir là-dedans. Puis là, ils nous demandent pourquoi j'ai pas eu mal au cœur la deuxième. Je ne sais pas. Pourtant, les niveaux hormonaux étaient très similaires entre les deux grossesses. Il y a énormément de variables qui rentrent en dessous de ça.
Puis il n'y aura pas de lien non plus avec les menstruations par la suite ou les menstruations qui ont eu lieu avant la grossesse et la ménopause aussi. Je veux dire, les réactions sont tous sont toutes différentes.
C'est très variable, okay. Effectivement. Mais oui, l'exemple que vous donniez sur la sensibilité aux hormones, il y a effectivement qui vont avoir des menstruations ou des réactions hormonales, si on peut parler comme ça, ouais. Assez intenses toute leur vie, peu importe leur situation, à la ménopause, à la grossesse, à la puberté, etc. Alors que d'autres vont avoir très, très peu de réponses aussi. Mais il y a beaucoup, beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte là-dedans. C'est dur à départager. Ce qu'il faut savoir, c'est que les hormones, c'est naturel. Quand les gens nous disent, est-ce qu'on pourrait les enlever, les hormones? Ben, on en parlait tantôt, ça fait partie de la vie, ça fait partie de la différenciation sexuelle. C'est quelque chose, je m'amuse à poser cette question-là à mes étudiants de temps en temps, en leur disant, question gynécologique, c'est quoi le but de la vie? Là, ils ne s'attendaient pas nécessairement à se faire poser ça dans un corridor là, par le docteur qui est avec eux autres là, en ce moment. Là. Le but de la vie, quand on y pense, c'est de continuer. Hein. C'est juste de se reproduire aussi. Donc, le système reproducteur est très important. Pourquoi? Parce qu'il amène la prochaine génération aussi. Il n'est pas vital, c'est-à-dire quelqu'un qui perd ses ovaires, qui perd ses testicules, mourra pas immédiatement de ça. C'est pas comme enlever le cœur ou les poumons qui sont vitaux. Mais le but de la vie, c'est vraiment de continuer. Là, je philosophie, là. C'est donc très important. Puis le corps, c'est pour ça qu'il met beaucoup d'énergie là-dedans. C'est pour ça que les hormones, c'est important pour la santé reproductive aussi. Puis les effets, féminin, masculin, ça, c'est toute une question de dosage. Parce que quand on dose les hormones chez une femme, on a des hormones masculines. Il y en a de la testostérone chez l'homme, mais la proportion est beaucoup plus faible. Et vice-versa, là, il y a de l'estrogène chez les hommes, mais en proportion beaucoup plus faible. Puis les transgenres, c'est comme ça qu'ils vont amener des transformations sexuelles. C'est qu'ils vont changer. Ils vont donner des hormones en injection par la bouche. Mais si on donne des estrogènes à haute dose chez un homme, il va avoir un développement de caractère sexuel féminin, des seins, des hanches, la distribution des gras va être différente, moins de bedaine, plus de fesses, plus de cuisses, vous savez très bien de quoi je parle. Et vice-versa, si on donne la testostérone à une femme, là, elle va se mettre à avoir de la bedaine de bière comme moi j'ai, elle va avoir de la barbe, parce que des follicules pileux sont présents, donc c'est une question de dosage d'hormones.
J'ai été surprise. En fait, je ne le savais pas. Vous m'avez appris ça d'entrée de jeu de la balado. Vous avez une sur-spécialisation en contraception.
Ouais.
Et j'aimerais qu'on en parle parce que j'ai l'impression que ces temps-ci, c'est un sujet qui... Ou c'est peut-être moi qui est issue d'une génération contraceptive X. Et là, maintenant, il y a tellement de nouveaux moyens de contraception. Comment on fait pour choisir le bon contraceptif? Tu sais, moi, je suis de la génération pilule. On s'entend, là, toutes les femmes de mon âge ou presque, là, en grande majorité, du moins, on a tous pris la pilule. Puis là, j'ai l'impression que la pilule, ça devient quasiment controversé, la pilule, présentement. En tout cas, il me semble entendre des discours un peu controversés là-dessus. Ce serait autre chose. C'est-tu des tendances, la contraception, ou c'est juste l'évolution qui fait en sorte que maintenant, on laisse tomber certains moyens de contraception vers d'autres?
Pour faire une réponse courte, le meilleur moyen de contraception, c'est celle que la femme veut utiliser. J'ai des patientes qui arrivent, qui sont jeunes, puis qui veulent la pilule, qui ont déjà pris la pilule, puis ça va bien avec la pilule, fine, pilule it is. Ça, c'est le plus important. En contraception, en fait, il faut avoir le plus d'options possibles. Plus il y a des options, il y a certaines qui vont dire, ça m'intéresse vraiment pas, mais son ami va dire, ça m'intéresse, moi, par exemple. Je prends le stérilet, par exemple, qui est un excellent moyen de contraception. Certaines vont dire, moi, je veux absolument rien savoir, j'ai peur de me faire poser, je vais avoir des crampes, etc. Mais une autre va dire, c'est-tu pas merveilleux, ça? Une fois que c'est installé, il y a des modèles qui sont bons pendant 10 ans, même 12 ans. Donc, on peut faire très longtemps avec ça. Là, c'est une discussion à avoir avec les patientes en particulier. L'effet de mode, si on peut parler, on pousse beaucoup, scientifiquement parlant, les médecins sur les contraceptifs à longue action. Pourquoi? On a réussi à démontrer, en fait, c'est pas compliqué à comprendre, si on n'utilise pas un moyen, si on n'a pas à le prendre régulièrement, si on le donne une fois par 10 ans, par exemple, bien, il y a moins de chances de devenir enceinte. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de chances d'échec. La pilule qu'on doit prendre à tous les jours, si on l'oublie, on peut devenir enceinte. Tandis que le stérilet qui est bon 10-12 ans, lui, on l'oublie, On peut l'oublier très bien. Il va continuer à faire son travail. J'ai déjà vu une patiente, moi, qui avait 75 ans, qui venait me voir pour un problème gynécologique tout à fait non relié à la contraception. Je l'examine, puis elle avait un stérilet en place. Et je lui dis, « Ah, vous avez un stérilet? » Puis elle fait, « Oh, mon Dieu! » J'ai accouché à 35 ans. Je me suis fait poser un stérilet. Je l'ai oublié.
Oh, mon Dieu!
Fait 40 ans qu'il est là, le stérilet. Et j'ai dit, « Ben, voulez-vous que je l'enlève? » Elle a dit, « Ben, il ne sert plus à rien. » Non, il sert absolument à rien.
Si on l'oublie, de toute façon, il n'est pas dommageable pour
exact.
Le corps.
Exact. Ça m'avait dit, « Ben, il est là, je l'aime, je vais le garder. » Aucun problème. Il était inerte, veut dire, il ne nuit pas. La patiente l'avait oublié. Je l'ai enlevé, ça a très bien été. Elle n'a pas eu mal du tout. Puis elle m'a dit merci, mais elle avait oublié pendant 40 ans son stérilet. Peut-être pas 40 ans, il avait passé les premières années, mais elle avait oublié de le faire enlever. Donc, pour dire comment c'est très intéressant. Puis elle, ben, si on lui demande est-ce que vous êtes contente d'avoir eu un stérilet, je suis pas mal sûr qu'elle a répondu oui, parce que je l'ai oublié. Donc, vraiment, tendance à favoriser les méthodes à longue action, réversibles. Donc, quand on arrête la méthode, la fertilité revient. Pourquoi? Parce qu'il y a moins d'échecs. Le problème à la contraception, grosso modo, c'est d'essayer de diminuer les échecs le plus possible. La bonne grossesse au bon moment.
Y a-t-il un sevrage à faire dépendamment du moyen de contraception, que ce soit le stérilet, la pilule? Tu sais, il me semble que moi, quand j'ai dit à mon entourage qu'on essayait avec mon chum d'avoir un enfant, tu prenais la pilule, et laisse-toi quelques mois, hein? Des fois, ça peut prendre un an avant que ton corps revienne normal. C'est-tu vrai, ça, ou
non.
C'est un mythe? C'est un mythe, hein?
En fait, il y a un moyen de contraception qui est disponible sur le marché en ce moment, c'est l'injection contraceptive qui s'appelle le dépôt Provera, sa marque de commerce. Elle, effectivement, peut retarder le retour à la fertilité de 6 à 12 mois à peu près. Toutes les autres méthodes de contraception, la minute qu'on l'enlève, la minute qu'on la cesse, la fertilité revient. Donc, y a une exception, mais sinon, grosso modo, il n'y a pas de délai de retour à fertilité. Je le dis, moi, aux patients qui viennent me voir, si tu viens me voir avec un stérilet pour dire, ben, je veux faire enlever le stérilet parce que l'année prochaine, je veux devenir enceinte, je dis, ben, parfait, viens me voir l'année prochaine. Parce que tout ce que ça va faire, c'est que tu vas être enceinte trop tôt. Si tu es content d'être enceinte cette année, pas de problème. Mais si c'est une catastrophe, tu vas vouloir une interruption de grossesse, on est peut-être mieux d'attendre un an.
Je comprends. Le fait est que, c'est ma première grossesse, j'ai 35 ans. On m'a dit, tu dois être une grossesse gériatrique. Hein? Toi, t'es une vieille femme pour être enceinte. Est-ce que 35 ans est encore l'âge pour être déterminée, reconnue comme étant une grossesse gériatrique ou ça a évolué avec le temps?
J'aime pas le terme, c'est pas
mais
un terme qui est médical.
Ça tombe
bien. Il n'y a pas grand-femme enceinte à 35 ans qui aime ça se faire dire
non.
Ça, je suis bien d'accord. J'avais une professeure qui détestait quand on lui disait « c'est un âge maternel avancé, elle a 35 ans ». Elle disait « c'est pas vieux 35 ans » et elle a tout à fait raison. Mais bref, on voit qu'il y a une tendance dans les dernières années à avoir des enfants. Le premier enfant est de plus en plus tard dans l'âge. Moi, quand j'étais étudiant, médecin résident, l'âge moyen au premier accouchement est autour de 27 ans, je pense. Maintenant, je pense qu'il est rendu autour de 33-34 ans.
Qui est quand même aussi tard.
Beaucoup augmenté, oui. Il faudrait valider les chiffres, là, mais c'est passé la trentaine aussi. Puis on le voit d'expérience, et c'est la première cause d'infertilité, en fait, en ce moment en Amérique du Nord ou partout dans le monde occidental. C'est vraiment qu'on commence à essayer d'avoir des enfants plus tard, quand la fertilité, malheureusement, commence à diminuer. Mais pour revenir à la question, est-ce que c'est trop tard pour avoir des enfants? Non. Il est tout à fait possible d'avoir des enfants à 35 ans. Est-ce que ça peut être plus difficile? Oui. Est-ce qu'il y a plus de chances de maladies en grossesse ou de malformations chez les enfants? Oui, mais pas de façon inquiétante pour dire non, il ne faut pas avoir des enfants passés 35 ans. Là. C'est toutes des choses qui sont gérables.
Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'une femme à un certain âge... Bon. C'est un terme qu'on peut utiliser, ça.
Tout à fait.
va être suivi plus, euh, plus souvent, mettons, là, parce que moi, 35 ans, je n'ai pas suivi plus que personne. Tu sais, y a-tu un âge où on se dit, bon, ben là, t'es peut-être plus à risque, on va te checker plus souvent?
C'est beaucoup plus les conditions médicales préalables qui vont nous inquiéter. Ouais. Donc, une femme de 25 ans qui a un surplus de poids, qui fume, qui fait de l'hypertension artérielle, qui fait du diabète, qui a déjà fait une thrombose veineuse profonde, par exemple, avant d'être enceinte, elle, on va la suivre de pas mal plus proche qu'une femme de 38 ans qui est en bonne santé, qui prend aucun médicament, qui n'a aucun problème de santé. Elle nous inquiète beaucoup moins de ce côté-là. Donc, l'âge en tant que tel n'est pas un critère unique. Sauf pour certaines maladies qui sont très dépistables ou les malformations, en fait, chez les nouveau-nés, la trisomie 21 étant la plus connue. Mais avec le dépistage maintenant universel qu'on offre aux femmes enceintes, qui n'est pas juste offert aux 35 ans et plus, si le dépistage est normal, on est très rassuré déjà en partant. Donc, les conditions médicales préalables sont plus inquiétantes que l'âge en tant que tel.
Plus on évolue en âge, c'est quoi les risques, ou du moins l'augmentation des risques de faire des fausses couches?
Il augmente de façon importante. À peu près une grossesse sur 4 à une grossesse sur 3, 25 à 33 % des grossesses finissent en fausses couches.
Toutes les grossesses ou à partir d'un âge précis?
Ça augmente avec l'âge. C'est-à-dire, une jeune femme, ça va tourner autour de 20 à 25 %. Autour de 20 ans, 20 à 25 % de chances de faire une fausse couche. C'est quand même assez élevé quand on y pense. Une sur 4 à une sur 5. Et rendu à 35 ans, c'est à peu près une sur 3 qu'on a. Dans une femme qui est enceinte, passée 45 ans, c'est une sur deux qui va faire une fausse couche. C'est très fréquent. Et ça, c'est relié directement à l'âge des ovules chez les femmes. Les hommes fabriquent des spermatozoïdes à tous les jours, au fur et à mesure. Les femmes sont nées avec leurs ovules et n'en fabriquent plus. Donc, une femme de 35 ans qui est devenue enceinte, son ovule avait 35 ans. Le spermatozoïde qui a fécondé cet ovule-là avait 3-6 mois.
OK, 3-6 mois.
Ça prend, oui.
Je passais quelques heures.
Et en fabrique tous les jours, c'est accumulé au niveau des vésicules séminaux testiculaires. Ouais. Il mature là pendant quelques mois jusqu'à l'éjaculation. Mais, beaucoup plus jeune le spermatozoïde que l'ovule aussi. Et les ovules de passer un certain âge sont moins fécondables et ont moins un bon matériel génétique. C'est pour ça qu'on voit plus de fausses couches aussi. Vous allez me dire, c'est ça, c'est encore la faute des femmes. c'est pas ce que je veux dire ici. Il y a des causes de fausses couches qui sont masculines aussi, il faut le savoir, mais la plupart, c'est effectivement relié à la qualité du matériel génétique. Malheureusement pour vous, les femmes, plus souvent de l'ovule que du spermatozoïde, mais plus un ovule est jeune, plus il est fécondable. Ceci dit, il y a une exception. C'est pas une bonne idée, on ne le souhaite pas à personne, mais une fille de 12 ans, 13 ans, qui a ses premières menstruations, elle est potentiellement fertile, elle pourrait devenir enceinte. C'est pas une bonne idée, on est tous d'accord avec ça. Elles aussi, elles ont plus de troubles génétiques parce que les ovules qui sont exprimés ne sont pas nécessairement en les meilleurs. Les meilleurs, là, ils surviennent vraiment à 20-25 ans. Là. Ça, c'est biologiquement parlant, c'est la meilleure qualité d'ovule parlant.
Puis même à ça, 20-25 ans, une grossesse sur 4 va se terminer en fausse couche.
Est-ce que 20-25%.
Ouais. 20-25%. Est-ce que c'est une augmentation qu'on a connue dans les dernières années? Est-ce qu'avant, c'était moins élevé que ça? Et au-delà de la qualité de l'ovule, est-ce que notre société stressante... comprenez ma question.
Oui, je comprends très bien.
Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui influencent justement le fait qu'on va avoir plus de fausses couches maintenant?
Ça n'a pas changé beaucoup, pour être bien honnête. C'est assez constant depuis qu'on s'intéresse à la question. C'est une question qu'on se fait poser souvent. Est-ce que le stress... Moi, je suis très stressé, j'ai un travail très stressant, etc. Est-ce que ça peut jouer un rôle sur les fausses couches? On n'a jamais prouvé. Okay. Est-ce que ça veut dire que c'est impossible? Non, mais on l'a jamais réussi à dire oui, c'est évident que c'est le stress qui a causé la fausse couche. Même chose pour la pollution environnementale. On peut dire, est-ce que la pollution industrielle, la pollution environnementale peut jouer un rôle sur les fausses couches? On ne l'a jamais démontré. Par contre, sur la fertilité, il y a un lien aussi. On rentre dans des études qui sont assez complexes, mais notre vie moderne va influencer notre reproduction à travers la pollution répartie un peu partout dans l'atmosphère.
Mais c'est immense comme statistique, je trouve. 20 oui. à 25 %, c'est
très fréquent. Demandez oui. à n'importe quel obstétricien gynécologue, des fausses couches, on voit ça tous les jours, nous, à peu près. C'est pour ça que le médecin, je ne le souhaite pas à personne, mais qui a une longue journée, puis que vous le voyez, puis vous faites une fausse couche, lui ou elle, dans sa tête, c'est bon, une autre fausse couche. C'est pas la fin du monde avoir devenir enceinte. Pour celle qui fait la fausse couche et son conjoint ou sa conjointe, c'est la fin du monde. On s'entend là aussi. Mais c'est malheureusement très fréquent. Quand on fait des analyses génétiques au niveau des produits de la fausse couche, on peut parler comme ça, bon, on se rend compte qu'il y avait une anomalie génétique sous-jacente. Ouais. Donc, la nature règle le problème comme ça, en fait, là, en disant « Oh, ça allait nulle part, cette grossesse-là. On arrête, on recommence le prochain mois, là. »
C'est drôle que vous disiez ça parce que j'ai fait une fausse couche avant de tomber enceinte. Là, j'ai fait une fausse couche, puis le médecin qui m'avait comme officialisé la chose a dit « Bon, ben madame, vous venez d'avorter. » C'est comme clair, net, froid. Mais je me suis dit « Bon, ben il y avait peut-être une grosse journée où il en voit tellement que pour lui, c'était normal. » Puis il n'a pas comme pensé que moi, dans mon petit corps, dans mon petit cœur, puis dans ma petite tête, c'était terrible ce qui se passait.
Les médecins, on reste des êtres humains. Hein. Des fois, on peut l'échapper. Je m'excuse pour ça. Il y a des gens qui m'ont pas aimé, c'est sûr, qu'ils m'ont trouvé froid. Ça arrive.
Mais ça m'a fait rire parce que, tu sais, je le comprends très, très bien. Puis ça m'a rappelé cette anecdote-là qui est derrière moi. Mais dans les faits, vivre une fausse couche, c'est ça. C'est un traumatisme. C'est vraiment pas joyeux. Et on garde cette crainte-là par la suite quand on retombe enceinte de refaire une fausse couche.
Oui.
Et moi, ma grosse crainte, quand je suis retombée enceinte de cette grossesse-ci, j'étais comme, mettons que je le repère, là, que ça fait deux fausses couches. À combien de fausses couches il faut que je m'inquiète? Puis à combien de fausses couches?
Très bonne question.
On va s'en aller vers l'infertilité, là. Mais c'est ça, c'est... Comment on gauge ça, là, permettez-moi l'expression, là, en termes de fausses couches, oui?
Comme médecin, on se pose des questions, nous autres, à deux fausses couches de suite. Donc, une femme qui a une fausse couche, un accouchement, tout va bien, accouché à terme, pas de problème, une deuxième fausse couche après son accouchement, nous, on n'est pas inquiets. Mais deux fausses couches de suite, peu importe ce qui est arrivé avant, on se pose des questions. C'est sûr que la patiente, la femme qui a déjà accouché avant, par exemple, a eu deux enfants, puis hop, a fait deux fausses couches, on est moins inquiet que celle qui ne fait que des fausses couches aussi.
Mm-hmm.
Donc, c'est recommandé effectivement de consulter après deux fausses couches de suite.
OK. Puis là, suite à ça, qu'est-ce qui peut s'enclencher comme processus là, si on découvre là, que... C'est ça, il y a des tests, j'imagine, à passer. Comment ça marche là, quand on veut justement s'en aller plus loin là, dans nos démarches?
Il y a des tests, effectivement. Il y a plusieurs. On pourrait passer là, une semaine complète à se parler des raisons des fausses couches à répétition. C'est un sujet qui est très complexe et qu'on commence aussi à comprendre.
C'est ce que j'ai réalisé aussi.
On ne connaît pas tout de la reproduction humaine. Ça fait pas... Si on regarde ça au niveau scientifique, au niveau médical, ça fait pas si longtemps qu'on s'intéresse à ça. Dans les années... Depuis les années 70, pas si longtemps que ça aussi. Le premier bébé éprouvette, hein, en 1978, si je me souviens bien, fait pas si longtemps que ça quand même, là, aussi. Et même chose pour les fausses couches à répétition. Faut pas oublier... mondialement parlant, ou même à l'histoire humaine, le problème était plus un problème de contraception que d'infertilité.
Mm-hmm.
Encore de nos jours, il y a plus des femmes enceintes qui ne veulent pas être enceintes que des femmes pas enceintes qui veulent être enceintes. On peut parler
comme
ça.
Okay.
Donc, la contraception est un problème de santé publique qui est plus important. Si je parle en quantité, non pas en qualité aussi. C'est dramatique d'avoir des problèmes de fertilité, on s'entend. Mais ça peut être dramatique aussi d'être enceinte encore qu'on ne veut pas l'être. Mmh. C'est pour ça qu'il y a eu probablement moins d'intérêt scientifiquement parlant pour l'infertilité des fausses couches à répétition, parce que c'était moins un problème fréquent que la contraception. Par contre, ça reste très important. Ça peut être dramatique aussi, là. Un couple qui essaie d'avoir des enfants puis qui a fait 3, 4, 5, 6, 7 fausse couche est très démoralisant, c'est très difficile. Malheureusement, des fois, on trouve rien. La majorité du temps qu'on fait des investigations pour ces couples-là, on dit on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. La réponse, je vous le dis tout de suite, la plus fréquente, c'est ben, tu as 35 ans, tu as 36 ans, tu as 37 ans. Donc, les chances de faire une fausse couche sont malheureusement plus élevées, comme on disait tantôt, aussi de ce côté-là. Mais c'est pas nécessairement une réponse satisfaisante, je peux très bien comprendre. Mais on a des connaissances encore limitées de ce côté-là.
C'est quoi les autres options, là, maintenant, avec la science et tout ça? C'est quoi les autres options qui se présentent pour un couple qui est infertile, mais qui tient, puis qui veut fonder sa famille? Qu'est-ce qui se présente à eux?
Oui, bien, la cause la plus fréquente d'infertilité, si on y va comme ça, c'est vraiment à l'âge de la femme au moment de la décision d'essayer de devenir enceinte. On le disait tantôt, l'âge moyen est au début de la trentaine maintenant, où on voit déjà des effets sur la diminution de la fertilité. Les chances sont déjà un peu moins bonnes. La deuxième cause la plus fréquente, parce que ça, on l'oublie souvent, on a toujours tendance à dire, hein, c'est elle qui ne devient pas enceinte. Monsieur est important.
C'est quoi son problème?
il est là, puis la qualité des spermatozoïdes est un facteur déterminant majeur aussi dans la fertilité. 40 % des causes d'infertilité sont féminines, 40 % sont masculines, et 20 % c'est on trouve de quoi chez les deux. Donc, en gros, c'est très facilement compréhensible, un couple sur deux qu'on voit en infertilité, c'est le monsieur. Et un couple sur deux, c'est la madame. Grosso modo, donc, c'est tout à fait logique aussi.
Oui.
De ce côté-là, on voit par contre beaucoup de causes combinées, pour être bien honnête.
L'incompatibilité, c'est tout ça ou non?
L'incompatibilité, c'est un concept que... c'est-à-dire, on se fait souvent poser la question pour dire, ben, ça se peut-tu que je sois incompatible avec mon chum?
Mm-hmm.
La réponse, c'est si c'est un être humain, t'es compatible. Donc, à moins que ce soit un alien ou un reptilien, bon, j'en ai jamais rencontré, je vous rassure. On ne l'a jamais démontré scientifiquement. Mais c'est vrai qu'il y a des patientes qui viennent nous voir pour dire, ben, regarde, j'ai essayé d'avoir un enfant avec mon premier partenaire. On n'y avait rien trouvé vraiment pour l'infertilité. Puis j'ai un nouveau partenaire, puis paf, ça marche. Mm-hmm. Ça se peut-tu que j'étais incompatible avec celui d'avant? C'est probablement plus une question de qualité des spermatozoïdes à ce moment-là que d'incompatibilité. Mm-hmm. Probablement que le spermatozoïde qu'il y avait, on se rend compte, il est incapable de féconder un ovule sans assistance. C'est une cause d'infertilité qu'on peut retrouver. Donc, l'âge, il y a quelque chose à faire chez la femme. On peut stimuler l'ovulation pour essayer de sortir des ovules de meilleure qualité. Au niveau masculin, on se rend compte que les antioxydants, les multivitamines chez les hommes augmentent la qualité des spermatozoïdes. C'est des choses assez simples aussi à faire aussi. Ceci dit, ça augmente aussi la qualité de l'ovulation. Les multivitamines chez les femmes, c'est utile aussi. L'homme est une femme comme les autres. Hein? En voulant dire, il n'y a pas une grosse différence. On n'a pas besoin de gratter bien loin pour souvent des recettes qui s'appliquent à un. On se rend compte que ça marche bien chez l'autre aussi. Là.
Vous dites que la santé reproductive est au cœur de nos vies. Je vais vous entendre là-dessus.
Oui, la santé reproductive est au cœur de nos vies. Ça revient à ce que je vous disais tantôt en face pour dire c'est quoi le but de la vie, c'est de se reproduire. C'est sûr que je vends ma salade ici. Je suis obstétricien gynécologue. Je baigne dans la santé reproductive. Même si on ne veut pas d'enfants, hommes ou femmes, ça fait partie de notre santé aussi. Ça a longtemps été tabou aussi. On ne veut pas parler des menstruations. On ne veut pas parler de la sexualité. Est-ce que les femmes ont de la sexualité? Ben oui, parce qu'on est tous là. Si nos mères n'avaient pas eu de relations sexuelles, on ne serait pas là pour en parler aussi. Donc, tu sais, c'est important de déculpabiliser les gens de ce côté-là et de redonner ces lettres de noblesse-là. Moi, j'ai aucune autre d'être... spécialiste du système reproducteur. C'est un système du corps humain comme le cerveau, comme le cœur, comme les poumons. Donc, c'est ça que je voulais dire aussi. Ben, ça fait partie de nous autres. Faut l'accepter. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça nous regarde. De ne pas vouloir d'enfants, c'est très correct. De vouloir 20 enfants, c'est très correct aussi. C'est un autre problème, mais il y a moyen de moyenner. Ça revenait à ce que je disais tantôt aussi. Quelqu'un veut des bébés, on va t'aider. T'en veux pas, on va t'aider aussi.
Et en terminant, puisque cette balado s'appelle Balado Santé sans rendez-vous, docteur Leboeuf, avec qui, là, si on exclut là, le côté mort ou vivant, avec qui aimeriez-vous prendre rendez-vous? Point d'interrogation.
J'ai réfléchi à ça, puis j'ai fait mes petites recherches. Vous allez voir, j'ai trouvé quelqu'un qui est bien intéressant.
Ça devait être la question la plus tough de toute cette entretien.
C'était la question la plus tough, effectivement, j'avoue. Là. J'aimerais bien rencontrer, si on pouvait bien sûr, il s'appelle Ignaz Semmelweis. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui. Non. Ignaz Semmelweis est un obstétricien gynécologue hongrois. C'est lui... Et vous allez voir le lien avec la pandémie actuelle, c'est lui qui a dit qu'il faudrait se laver les mains avant de faire des accouchements. C'est lui qui s'est rendu compte qu'on transmettait des bactéries qui infectaient les mères qui accouchaient. Parce qu'il travaillait à Vienne à l'époque et ses patientes qui étaient enceintes lui disaient « Moi, je ne veux pas accoucher avec un médecin, je veux accoucher avec une sage-femme parce que quand on accouche avec un médecin, on a plus de chances de mourir. » Et lui, là, on est au 19e siècle. Là. Les sages-femmes, c'était pas...
Mais non.
Bonne opinion, les sages-femmes, les médecins. Là. Un médecin, c'était pas mal plus prestigieux. Là. Puis là, il disait, comment ça? Puis il a enquêté, puis il s'est rendu compte. Il a dit, premièrement, elles ont raison. Les taux de mortalité sont plus élevés chez les femmes qui accouchent si c'est un médecin. Je parle pas au 20e siècle, au 21e siècle.
Non,
je parle en 1830 à peu près, là, on s'entend. Donc, plus 50, je pense, mais autour de 1850. Puis là, il a dit, pourquoi? Puis là, c'est là que c'est dit, les médecins, ils donnent des cours. À cette époque-là, ils disséquaient des cadavres. Ils disséquaient des cadavres, il n'y avait pas de gants à latex, ça n'existait pas, main nue. Et puis, il disséquait, puis là, il allait devant tous les étudiants de médecine, puis il dit, regardez, ce patient est décédé du choléra. Je vais vous montrer ce que ça fait, le choléra, sur le corps humain. Il y avait du choléra partout. C'était avant Pasteur. On ne savait pas c'était quoi les bactéries, on ne savait pas c'était quoi les virus. Puis après, il ne se lavait pas les mains. Puis il allait accoucher les femmes ici sans se laver les mains. Puis lui, il s'est dit, il y a peut-être un lien entre ça. C'est ça la différence entre les sages-femmes et les médecins en 1850. C'est que les sages-femmes ne font pas de dissection comme ça. Puis il dit, si on se lavait les mains. Il a fait un simple test. Il dit, on va obliger les médecins à se laver les mains avant de faire des accouchements. Et paf! Tout d'un coup, même taux de mortalité que chez les sages-femmes. Donc, très intéressant personnage que j'aimerais rencontrer. Par contre, il n'avait pas l'air d'être du monde. Je pense qu'il chicanait. J'ai lu sa biographie. Il avait l'air de chicaner avec tout le monde. Je ne suis pas sûr. Je risque des fois rencontrer nos héros. On est déçus un peu. Là. Pour son histoire professionnelle, ça a l'air très bien, mais il n'avait pas l'air commode.
Il est obstétricien, gynécologue, directeur du département d'obstétrique, gynécologie et reproduction de la Faculté de médecine de l'Université Laval, de même que co-titulaire de la chaire de leadership en enseignement en santé des femmes, le docteur Mathieu Leboeuf, qui est avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup.
Merci.
J'ai pas l'impression que ça a duré aussi longtemps, cette balado-là, tellement c'était intéressant.
Merci.
Vraiment. Là. Un bel entretien. Merci énormément de vous être prêté au jeu du balado Santé sans rendez-vous.
Ça m'a fait plaisir.